Je suis très heureuse de reparler à l'auteur Jean-Pierre Charland qui nous propose le deuxième et dernier volet de sa série Passe-temps. Il s'agit cette fois-ci de L'avenir au passé. C'est aux éditions Urtubise. Monsieur Jean-Pierre Charland, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va, Monsieur Charland?
Ah, ça va bien.
Je sais que la semaine dernière, vous étiez fort occupé. Vous étiez du côté du Salon du Livre à Montréal.
C'est ça.
Oui. Est-ce que les lecteurs se font un plaisir là, de vous parler de vos différents romans, de vos différentes séries historiques?
Oui, mais cette année, il y avait relativement peu de monde. Je ne sais pas si c'est à cause de toutes les maladies qui courent, mais
bon.
La foule, pour un dimanche, là, c'était vraiment beaucoup moins peuplé que d'habitude.
Bon, ben certainement que les gens vont vouloir se procurer quand même vos livres de ce côté-ci. Vous proposez donc le deuxième volet de Passe-temps. On sait que vous êtes connu pour plusieurs séries historiques, notamment Génération 1970, La Pension Caron, Odile et Xavier, et là, c'est Passe-temps. Deux volets. Est-ce que ça a été difficile pour vous de si je peux dire, de raconter cette histoire en deux volets seulement, M. Charland?
Non, pas vraiment. En fait, il s'agit... Quand je commence, j'essaie de savoir là, comment je veux traiter. Alors, je sais tout de suite, c'est planifié pour deux tomes. Alors, c'est pas plus compliqué qu'être planifié pour trois ou quatre. Là. Il s'agit simplement de savoir où on va dès le début.
Parfait. Et là, avec Passe-temps, L'avenir au passé, on retrouve bien sûr Samuel et Iris. Parlez-nous un peu de ce deuxième volet.
Ben, écoutez, cette série-là, en fait, je voulais miser sur la surprise, effet de surprise, parce qu'on s'imagine que le passé, c'est comme aujourd'hui, hein, un peu plus conservateur.
Oui.
Alors que Le passé, c'est un pays étranger, là, la citation que je mets au tout début de chacun des tomes. Alors, c'était de la surprise face aux différences. Et dans le premier tome, ce que j'exploitais, c'est la surprise de quelqu'un qui atterrit dans le passé et qui découvre un monde qui est fondamentalement différent au niveau physique, au niveau technique, au niveau médical, mais aussi au niveau des comportements, au niveau des valeurs. Et dans le tome 2, j'essaie de faire l'inverse, c'est-à-dire de précipiter quelqu'un qui arrive des années 1920 en 2021. Alors, c'est aussi toute l'ampleur des surprises, parce que c'est relativement facile d'aller vers le passé parce qu'on en connaît quelque chose.
Mais aller vers le futur, c'est autre chose.
C'est ça. Alors, c'est complètement déroutant. C'est absolument déroutant. Et la première surprise qu'elle a, c'est d'entendre l'auto parler.
Oui.
Mais imaginez pour quelqu'un qui arrive de 1921, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie, ça peut être n'importe quoi.
Mm-hmm.
Mais techniquement, c'est impossible.
Et
alors, on est obligé d'aller dans le surnaturel pour l'expliquer.
Effectivement. Alors, vous avez comparé là, les deux époques.
C'est ça. Et pour voir aussi, il y a des choses simples. La pauvre Iris consulte un médecin et quand elle sort du cabinet, elle se demande quand est-ce qu'elle va voir le médecin parce qu'elle a vu une femme. Et c'est inconcevable en 1921 de voir une femme médecin.
Mm-hmm.
Alors, imaginez là, les surprises quand on arrive d'un monde où toutes les femmes sont à la maison, sauf de très, 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 très rares exceptions. En 1921, au Québec, il y avait peut-être deux médecins qui étaient des femmes dans toute la province. Alors, ce sont des choses qui pour elles, sont déroutantes. Et je voulais aussi aborder la question de la maternité et de l'importance de la maternité en 1921. Justement, quand les femmes n'ont pas de carrière, n'ont pas d'activité professionnelle.
Elle se vit complètement différemment, là.
C'est ça. Et c'est vraiment fondamental. Sinon, il y a une femme qui est à la maison et qui n'a pas d'enfant, c'est comme si elle n'avait aucun rôle dans la vie.
Eh oui.
Parce qu'on ne peut pas imaginer faire carrière. À l'époque, le mieux qu'on puisse faire, c'est de travailler dans un bureau, dans une usine, comme domestique. Alors, si on n'accomplit pas son destin en tant que femme, ça devenir mère, ça la laisse complètement désemparée. Alors, j'ai voulu aussi exploiter cet aspect-là des choses, qui aujourd'hui est très différent. Les filles sont mères et sont plein d'autres choses en même temps.
Oui. Samuel, il risque qu'ils ne réussissent pas à avoir d'enfants. Il est question donc de fertilité. Comment ça se déroulait dans les années 1920, M. Charland?
Ça ne se déroulait pas du tout. Oui. Quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, il y avait plus rien à dire.
On se tournait vers l'adoption.
C'est ça. Et c'était vraiment pas compliqué d'adopter au Québec. Et je ne sais pas si vous connaissez un peu le Québec, mais Sainte-Marie-de-Beauce, Saint-Joseph-de-Beauce,
oui.
C'est tout petit localité. Alors, j'allais donner une conférence il y a quelques années. J'étais dans un édifice de briques. Vous savez, les belles écoles des années 1920-1930.
Briques rouges, là? Oui.
En briques rouges. Et juste à côté, il y avait un édifice identique aussi grand. Et j'ai demandé aux gens qui m'invitaient, mais à côté, je présume que c'était l'école primaire. Parce que je savais que je me trouvais dans l'école secondaire.
Mm-hmm.
Et la dame qui m'invitait, non, ça, c'était l'orphelinat. C'est-à-dire que dans un tout petit village qui comptait 1200 habitants, peut-être, il y avait un orphelinat qui était capable d'accueillir des centaines d'enfants. Ça ne se limitait pas au seul village,
oui.
Mais les orphelinats étaient bondés.
OK.
Et quiconque, on annonce dans les journaux, on invite les gens à les adopter dans les journaux. Ça fait partie du discours dans les églises pendant le sermon. Alors, il y a une surabondance d'enfants qui sont abandonnés
mm-hmm.
parce qu'une jeune fille qui tombe enceinte, évidemment, elle ne pouvait pas survivre socialement, mais économiquement non plus. L'abandon de l'enfant était la seule alternative qui était possible. Alors, il y a d'un côté une très grande facilité à adopter. À cette époque, mais il n'y a aucun soin pour des problèmes de fertilité.
Mm-hmm.
On peut conseiller à monsieur de manger des œufs ou des huîtres, mais on sait tous que ça ne fonctionne pas. Là.
Est-ce qu'il y a des choses que vous avez retrouvées en faisant vos recherches, monsieur Charland, pour cette série Passe-temps, là, qu'il y a des choses qui n'ont pas changé du tout de 1921 à 2021?
Moi, je pense qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui n'a pas changé. On pourrait dire les rapports amoureux, mais en réalité, c'est très différent. Les attentes sont très différentes. Aujourd'hui, on s'attend à être heureux. C'est bête à dire, mais on s'attend à être heureux.
Mm-hmm.
Alors que dans une vie de 40 ans ensemble, c'est pas possible d'être heureux non-stop pendant 40 ans. Là. Et les gens vivaient avec. Alors que de nos jours, c'est pas du tout l'attitude qu'on a.
Oui.
Il y a l'obligation, en quelque sorte, d'être heureux. Et si ça n'arrive pas, et si ça n'arrive pas tout le temps, ben on préfère changer de relation pour revivre un même scénario avec quelqu'un d'autre, d'ailleurs.
Oui. Oui, oui, oui.
Mais à cette époque-là, déjà, quand on s'engage avec quelqu'un, c'est dans une perspective complètement différente. On sait que c'est pour la vie. Alors, même dans les rapports amoureux, on ne peut pas dire que c'est la même chose.
Mm.
Quand on sait qu'on n'a pas vraiment la liberté d'en changer si ça ne fonctionne pas, on ne s'engage pas dans le mariage de la même façon. Et on cherche des qualités qui sont différentes. Donc, moi, je trouve fondamentalement qu'il s'agit vraiment d'un pays étranger et que les choses ne sont pas plus... C'est comme atterrir dans un pays très chaland en Chine. Quand on arrive en Chine, c'est très facile d'être dépaysé.
Oui.
Mais je pense qu'arriver en 1921, on est au moins aussi dépaysé.
Okay.
Si on se retrouve plongé dans un village en Chine.
Oui.
Que ce soit par la langue, les habitudes, la religion,
mm-hmm.
l'hygiène, la technologie, tout est absolument différent.
C'est un beau voyage que vous nous proposez dans Passe-temps, l'avenir au passé. C'est le deuxième et dernier volet, M. Charland. Donc, on suit Samuel et Iris, lui qui arrive du futur, elle qui se dirige vers le futur. J'invite les gens à découvrir ça, ça vaut la peine. C'est une belle lecture, ça se lit bien à part ça. Un beau cadeau à s'offrir pour les fêtes. 368 pages, $26.95. Je rappelle, c'est aux éditions Urtubise. Merci beaucoup, M. Charland. Je sais que vous travaillez déjà, là, vous êtes plongé dans une nouvelle histoire. Il s'agit encore d'un roman historique?
Oui, je reviens avec Eugène Dolan et ses enquêtes policières. Alors, c'est ça sur quoi je travaille maintenant.
On va surveiller ça de très près. Merci beaucoup et je vous souhaite de joyeuses fêtes.
Merci à vous aussi.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Jean-Pierre Charland, l'auteur de la série Passe-temps.